franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour, nouvelle étape en Gironde. Et aujourd'hui, on va parler égalité et promotion de la diversité, car c'est ce qui anime l'excellente association ADSI Techno-Ouest. ADSI pour Association pour le développement des stratégies d'insertion, et puis Techno-Ouest pour la Technopole de Bordeaux. Nous sommes précisément à Mérignac, capitale de l'aéronautique, et le travail réalisé par notre premier témoin, Jean-Marc Guillambet, et son équipe pour lutter contre les discriminations est absolument exceptionnel. Et la diversité ne se résume pas aux quartiers sensibles, aux petites poches d'économie locale. Le second témoin a une démarche tout aussi louable, presque utopique, tellement elle recouvre de points sensibles, de jugements portés, de stéréotypes et de confusion. Et je sais, ça fait beaucoup. Il s'agit de valoriser la richesse des peuples d'Afrique. Le projet est le résultat d'une longue expérience et d'une patiente réflexion menée par René Otaïek, chercheur au CNRS et professeur à Sciences Po Bordeaux. C'est ainsi que l'Institut des Afriques a vu le jour en 2014. Il s'en expliquera donc dans la seconde partie de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Marc Guillambet, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Jean-Marc, vous êtes président d'une association qui nous a interpellés, surpris. Elle s'appelle l'Association pour le développement des stratégies d'insertion Techno-Ouest. Alors on va dire pourquoi elle nous a étonnés, parce qu'elle est encore rare sous cette forme. Techno-Ouest, c'est la technopole de Bordeaux.
Oui, ouest, sur la partie ouest de Bordeaux. Hein.
Ce qui est original, alors c'est pas la première fois, au départ il y avait un plan local pour l'insertion et l'emploi.
Oui.
Vous existez par la structure depuis quelques années et vous prenez en charge, hein, vous êtes le support de ce pli de ce plan local d'insertion et d'emploi. Quand on parle de Technopole, on pense à l'innovation, à la grande technologie, l'aéronautique évidemment chez vous à Mérignac, et on pense moins aux personnes qui sont en marge, qui sont sur... parfois dans le fossé du marché du travail. Comment concilier la grande entreprise aujourd'hui, très performante, très compétitive, et ce monde en attente d'un emploi?
Oui, c'est justement là le gros problème, parce que en matière d'emploi, une ville comme Mérignac, par exemple, c'est 50 000 emplois,
oui.
Mais des emplois d'un certain niveau. Donc reste en marge toute une population qui ne peut pas accéder à ces niveaux techniques ou scientifiques qu'exige, par exemple, le monde de l'aéronautique, de la défense ou de l'aérospatiale. Si vous voulez, nous, on est une structure associative qui a pour objectif, d'ailleurs, et c'est cela qui est intéressant, de repenser les modes d'intervention des villes et des technostructures qui sont autour sur cette compétence qu'est l'insertion sociale et professionnelle.
Vous gérez aussi vous suivez les clauses sociales pour les marchés publics.
Oui,
alors,
oui, absolument.
Depuis quelques années, il y a une participation dans les marchés publics, une ouverture aussi aux entreprises sociales. Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que vous avez un rôle d'arbitre, voire de gendarme?
Gendarme, non, mais de conseiller, si vous voulez, surtout d'aspirateur, notamment auprès des collectivités locales, pour leur faire comprendre combien il est intéressant aujourd'hui, au niveau des clauses sociales, de faire intervenir des personnes qui sont en marge, même s'il y a encore quelques années, les entreprises étaient un peu réticentes. Aujourd'hui, elles jouent le jeu, et on s'aperçoit que dans 70% des cas, les personnes qui sont intervenues dans le cadre des clauses sociales de marché trouvent un emploi dans 70% des cas, à la suite de cette expérience.
Oui. Votre principal objet de lutte sont les discriminations.
Oui, et ça a été notre logique, de montrer aux entreprises, de travailler avec les entreprises d'abord à l'externe, puisqu'on a un réseau d'entreprises très important, sur la nécessité de privilégier la diversité dans les recrutements, et puis également, en interne, remettre d'aplomb des personnes qui sont aujourd'hui, de façon ou d'une autre, discriminées, comme les seniors, les femmes, etc.
Et ça veut dire que les entreprises peuvent devenir des ambassadeurs de cette diversité?
Oui. L'idée qu'on a eue au départ, c'était de dire on va baser notre stratégie de promotion de la diversité sur un concept de marketing viral, si j'ose dire. L'idée, c'était d'avoir des ambassadeurs, qui étaient nos partenaires dans le pli, d'ailleurs, au débarrage, des ambassadeurs de la diversité, qui, à leur tour, invitaient au cours de petit déjeuner, en immersion totale, chez eux, dans leur entreprise, d'autres entreprises, en leur explicitant leur politique de diversification, en partageant des expériences, et en réfléchissant sur ce sujet, et les entreprises qui étaient invitées, à leur tour, continuer le processus. Ce qui fait qu'on est parti à l'origine sur une dizaine d'entreprises et que notre fin d'année 2015 nous a vu 300 entreprises concernées par le sujet.
Oui.
Alors, l'atout que nous avons, nous, en tant que structure à la fois porteuse du PLI, puis en même temps structure de développement des stratégies d'insertion, c'est de dire que nous, on apporte la crédibilité. Les personnes qui vont se retrouver dans le cadre d'entreprises qui veulent bien prendre en charge ces personnes apparemment discriminées, vont être suivies pendant tout le parcours de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés majeures. Mmh. Donc vis-à-vis de l'entreprise, ça apporte une certaine forme de crédibilité et d'assurance. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que ces personnes-là qui étaient dans ce schéma-là, on arrive à en recaser 50 à 60%.
Oui, hein. Oui. Il y a quand même le souci, on le disait, vous êtes dans un territoire, vous couvrez 10 communes autour de Bordeaux,
oui,
avec
oui.
10 salariés, hein, au sein de l'association. C'est le minimum pour faire fonctionner cette belle structure, mais vous êtes dans un secteur de pointe qui nécessite, exige des compétences. Est-ce que on peut imaginer des qualifications auprès de ces personnes qui sont en quête d'un emploi, qui peuvent en trouver en insertion, ensuite qui vont déboucher sur du plus durable, mais avec des qualifications en cours de route?
Oui, on peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à mettre en œuvre une valorisation des acquis de l'expérience, une VAE spécifique pour ces populations-là, de façon à ce qu'elles puissent progressivement postuler à des postes un peu plus techniques. Et j'avoue que là, on a la participation d'entreprise, puisqu'on a créé un cercle des managers responsables qui prennent en charge ces personnes, ces VAE, ces gens qui sont en VAE, et qui leur permettent de se préparer à l'audit de la VAE, quoi.
Mmh. Il ne nous reste plus qu'une chose, c'est à créer un réseau national des associations pour le développement des stratégies d'insertion.
Oui, oui, non mais on n'a pas cette prétention. Nous, notre prétention, c'est simplement que, et c'est notre axe majeur, c'est la lutte pour la diversité.
ADSI-TechnoWest.fr pour l'adresse internet qui va s'afficher à nos pages d'émission. Merci beaucoup Jean-Marc.
Et merci beaucoup à vous Philippe Bertrand.
Et continuez, oui, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Nous avons reçu un message ces derniers jours de David et comme nous le faisons toujours, nous recherchons de plus amples informations. Il nous arrive très souvent de rester bouche bée devant la qualité du travail réalisé par nos correspondants. Personnellement, je suis resté scotché à mon écran en visionnant les documentaires mis en ligne par l'association présentée par David. Elle s'appelle Nous Autres. Cet organisme tente de collecter toutes les mémoires et paroles des populations qui ont construit l'histoire moderne des îles de l'estuaire de la Gironde. D'une superficie totale de 1500 hectares, certaines îles semblent avoir été abandonnées à l'image des maisons volées fermées sur le temps. D'autres ont fait l'objet d'acquisitions publiques et d'autres encore sont le terrain d'expérimentation agricole moderne. Et depuis 2009, le département de la Gironde soutient un festival des îles qui réactive ses mémoires. Nous autres réalisons actuellement un web documentaire dont les premiers éléments vraiment très bien réalisés sont mis en ligne. Allez voir sous le titre de terre et d'eau mêlées et la constitution d'un inventaire culturel des pratiques et usages de ces populations est absolument inédit. Et les matériaux récoltés ont droit à un suivi scientifique de l'Université de Bordeaux et ils seront reversés et consultables aux archives départementales de la Gironde. Le site c'est nousautres.fr. À Bordeaux, toujours René Otaïek, bonjour.
Bonjour.
René, vous êtes président d'un institut très original que vous avez appelé des Afriques. Créé il y a 2 ans, que faut-il entendre par Institut des Afriques ? On va parler du pluriel après, évidemment.
Alors, l'Institut des Afriques, c'est une structure fédérative qui regroupe 8 membres fondateurs, donc des venant aussi bien du monde de la culture et des arts, universitaires, associatifs, la solidarité internationale. Donc, ces structures se sont fédérées. Avec l'appui financier de la région Aquitaine, qui était encore à l'époque la petite Aquitaine, et nous bénéficions toujours de l'appui de la nouvelle Aquitaine.
Oui. Et quand vous parlez donc au pluriel des Afriques, parce qu'effectivement elles sont nombreuses, pas uniquement sur le continent africain.
Tout à fait. Alors bien évidemment, il y a le continent africain, mais le continent africain dans sa globalité, c'est-à-dire le nord et le sud du Sahara, mais également ces autres Afriques que sont les diasporas africaines installées sur nos territoires, les Caraïbes, les sociétés issues de la traite atlantique, donc tout ce qui forme effectivement cet immense monde que l'on appelle donc les Afriques et C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu appeler notre institut Institut de l'Afrique, mais Institut des Afriques.
Votre démarche est originale, hein, parce que vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Bordeaux, et vous avez dirigé pendant 9 ans le Centre d'études africaines de Sciences Po Bordeaux. Autrement dit, vous êtes passé de la théorie à la pratique, d'une certaine manière, en entrant directement sur le terrain, ce qui est une transition peut-être pas tout à fait aisée quand on est visible dans le monde du savoir et du professorat.
Effectivement, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas forcément toujours compris par à la fois par des collègues, voire par les instances d'évaluation qui jouent un rôle important, je dirais, dans le suivi des carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Certains considérant qu'il peut y avoir un mélange des genres critiquable, inacceptable. Quoi qu'il en soit, on est confronté également à, je dirais, une autre réalité qui est ce qu'on appelle la demande sociale, c'est-à-dire un besoin d'expertise sur les Afriques, le besoin de faire entendre un discours différent qui tranche, ou en tout cas qui a l'ambition de trancher avec les discours que l'on entend généralement sur les Afriques. Pour moi, il n'y a pas de coupure, il y a au contraire un continuum. J'essaie simplement, avec mes amis, membres de l'Institut des Afriques, je n'aime pas trop le mot vulgariser, mais bon, il s'agit un peu de ça, c'est-à-dire essayer de porter, d'amener au public une autre parole sur les Afriques, un autre regard qui prenne en considération les problèmes, et ils sont nombreux, mais il y a aussi d'autres Afriques, des Afriques qui innovent, des Afriques complexes, des Afriques qui essayent de se développer, des Afriques qui ne sont pas simplement réceptrices, je dirais, des dynamiques extérieures, mais qui essayent de contribuer également, qui sont exportatrices finalement de dynamiques.
En fait, l'institut que vous avez créé, René, c'est un laboratoire d'idées.
C'est un laboratoire d'idées, c'est un lieu de réflexion que l'on veut critique, exigeant, également lucide. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons beaucoup, par exemple, à un cycle de conférences que nous avons mis en place dès le départ avec l'Université populaire de Bordeaux. Oui. Bon, on appelle ça un peu pompeusement, mais une chaire des Afriques. Et donc, on organise dans ce cadre-là une conférence annuelle qui amène pas mal de gens. Nous ambitionnons de toucher un public beaucoup plus large et des acteurs très diversifiés.
Et vous dites, il s'agit de montrer le potentiel, le dynamisme de ces Afriques et de se démarquer des images habituelles liées aux conflits, aux épidémies et aux problèmes migratoires.
Exactement, c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons inauguré notre cycle de conférences de l'année par une conférence sur les questions migratoires. Le conférencier, qui a très bien fait son travail, a, je dirais, fait un peu le ménage de quelques idées reçues, mais bon, je suis bien conscient qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout dans le contexte actuel, pour inverser la tendance.
Oui. Avec une activité phare de la part de l'Institut, la Semaine des Afriques, qui aura lieu du 23 au 29 janvier.
Exactement, ça c'est la Semaine des Afriques, nous l'avons voulu comme l'événement phare, c'est-à-dire un moment important dans la vie culturelle de notre ville, de notre région. Des concerts, des conférences débats, des projections de films, du théâtre, des expositions. Bref, nous essayons de montrer toutes les facettes de ces Afriques-là, avec, je dirais, quelques extensions un peu timides pour l'instant, mais nous espérons aller plus loin dans les prochaines éditions, vers des villes comme Angoulême, Pau, pourquoi pas Poitiers, dans un avenir proche. En tout cas, telle est notre ambition.
Si vous voulez entrer en relation avec l'Institut présidé par René, institutdesafriques.org pour l'adresse internet, il y a une page Facebook, et puis il y a aussi une adresse électronique, si vous voulez entrer en contact avec l'Institut dont le siège est à Pessac. Merci René.
Merci Philippe.
Demain, toujours en Gironde, pour le dernier volet des carnets de la semaine, une association particulière qui repère les inventeurs, facilite les brevets et leur vente aux entreprises innovantes. Et puis on présentera une antenne dynamique à Mérignac du groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques. C'est demain dans les carnets. Tout de suite, on rejoint Nicolas Stoufflet au Taillon Médoc pour le jeu des 1000 euros.